c'est ma passion de cuisiner. Et quand je suis arrivé en France, je n'ai pas parlé français. J'ai trouvé que la cuisine, le food, c'est un moyen de partager l'histoire, toute la vie de Syrie.
On se fait découvrir une nouvelle culture, donc c'est bien. Et moi, j'ai essayé de le refaire chez moi avec maman.
Qui continue à sa cuisine. Bah, c'est super bon. C'est un grand courageux. C'est même, je dirais, un chevalier.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde, votre émission culinaire qui se concentre sur les liens tissés de plats en plats, la vie transmise, le partage et l'ouverture. Ce lien qui fait ouvrir de grands yeux quand on comprend nos ailleurs et nos racines communes. La cuisine, c'est bien plus que des recettes, c'est un langage universel et c'est aussi, je le crois, la conviction de Marine Mandrila. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice du Refugee Food Festival, festival de chefs réfugiés, de cuisine réfugiée aussi. C'est la 4e édition cette année, en 2019, voilà une bonne nouvelle. Stéphane Jégot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du restaurant L'Ami Jean à Paris, merci d'être avec nous cette année encore. Chef ami, soutien, camarade d'aventure, je crois qu'on peut vous qualifier comme ça.
Oui, disons complice.
Complice, oui, complice.
Ami, complice.
Ami, complice. C'est une bonne présentation, ça. Clémentine Ruello, bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous portez le projet du Refugee Food Festival à Rennes. Alors Rennes, c'est dans l'ouest de la France, en Bretagne. Vous allez nous raconter un petit peu comment vous vous êtes engagé dans cette aventure et ce qu'elle signifie pour vous, bien sûr. Et nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Aïssan Karadjei. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes syrien, cuisinier. Vous ne l'étiez peut-être pas d'origine, vous allez nous raconter un peu si vous avez toujours été cuisinier ou pas, ou si vous l'avez appris, ce métier. Et à compter du mois de juillet, pendant 6 mois, vous allez être chef de la résidence. C'est un peu le restaurant stable du festival. Pendant 6 mois, on a l'occasion de s'entraîner à peut-être un jour, en tout cas on l'espère pour vous, puisque ça a été le cas déjà dans le passé, un restaurant dont vous seriez le chef. Peut-être ici en France.
Très motivé.
Voilà, c'est tous les espoirs que l'on porte et c'est pourquoi ce festival a été créé. Alors justement, il faut peut-être rappeler Marine Mandrila, la genèse de toute cette idée et de cette histoire. Comment est-ce qu'est né ce Refugee Food Festival?
Mais le projet est né à la base d'un engagement personnel de Louis Martin et moi-même suite à des voyages culinaires partout dans le monde où on a vraiment réalisé le pouvoir de la cuisine pour connecter et pour donner à voir d'autres choses. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de donner à voir une autre réalité, de faire évoluer les regards et les mentalités sur les réfugiés grâce à la cuisine. Et bien sûr, de travailler sur l'insertion professionnelle, d'offrir un déclic, un tremplin, un premier réseau, l'accès à des formations et à un réseau professionnel pour les cuisiniers participants. Et c'est aussi l'occasion de parler un petit peu différemment de certains pays, de faire découvrir des goûts, des saveurs, des produits, des épices qu'on ne connaît pas forcément en France et qui en contribuent à enrichir nos papilles et nos sociétés.
Et ça, on n'est pas au bout de l'aventure. Mais ce qui est incroyable, c'est que, est-ce que vous pensez que ce regard de réfugié, parce que quand vous êtes revenu et quand vous avez décidé de lancer ce festival, on était en 2015,
exactement,
c'était
ouais,
en pleine vague d'immigration, notamment syrienne. Ça vous a choqué, en fait, qu'on puisse juste se contenter un réfugié était un réfugié, on oubliait tout son passé?
En fait, exactement. Exactement, c'était surtout pour essayer de prendre un petit peu le contre-pied de tous les discours juste extrêmement misérabilistes et anxiogènes qui nous amenaient à oublier que derrière la crise des réfugiés et derrière ce qui se passe en Méditerranée, bah, c'est simplement des personnes comme vous et moi qui ont juste essayé de sauver leur vie et de non seulement de trouver une vie meilleure, mais de sauver leur vie. Et il nous a paru hyper important de juste reconsidérer ces personnes-là comme étant nos égaux et de devoir aussi comprendre, valoriser et préserver aussi leur culture, leur savoir-faire et comprendre que c'est aussi une richesse pour nous, société
pour pays,
d'accueil, exactement, et qu'on a aussi un devoir d'accueillir dignement voilà les personnes réfugiées qui ont souvent eu un parcours compliqué et qui se doivent d'être accueillies.
Et ne jamais oublier que ça pourrait très bien nous arriver et comment on réagirait.
Absolument.
Dans ce cas-là.
Exactement.
Stéphane Jégot, l'année dernière, ce micro, ce même micro, vous étiez en train de me dire « Notre rôle, ce n'est pas de donner de l'eau, mais de construire le puits et de donner la pelle qui permettra de construire ce puits dont on pourra puiser l'eau. »
Mais oui, tout à fait. Je pense que cette année, après 4 ans, on a des résultats. On a des résultats positifs. Et déjà, on a, comme Marine disait, c'est vrai que de redonner de l'humanité à l'humain, c'est quand même la base de l'ADN du festival, de ce qu'on est. Comme on l'a dit et redit, on ne sera pas lavé notre humanité, ni lavé notre contexte professionnel. Peu importe qu'on soit cuisinier à la base ou pas, c'est aussi mettre ce métier à son service. Et ça qui est extrêmement important. Et là, c'est vrai que les réussites qu'on a cette année, qu'on voit par rapport au travail depuis 4 ans avec Nabil Attar à Orléans, Magda, Mohamed, mais il n'y a pas que des têtes d'affiche, il y a toutes les personnes aussi qui nous entourent.
Parce que là, vous parlez comme si on était tous au courant, mais en fait, peut-être que certaines personnes ont oublié, en fait, que vous avez accompagné Nabil Attar qui s'est installé à Orléans, donc dans le centre de la France, qui a ouvert le restaurant Naredj. On a Magda Gueguenava aussi qui a ouvert son restaurant, son cabanon à la retour à Paris. Ce sont des gens qui sont arrivés avec un autre métier, qui sont devenus cuisiniers pour certains et qui aujourd'hui sont chefs de leur propre établissement et qui se refont une vie.
Tout à fait. Alors je vous coupe parce que c'est vraiment, ils sont aujourd'hui à la tête de leur entreprise. Ils sont réinsérés dans la société française par rapport à ce métier. Donc ils ne sont pas dépendants de la société, mais ils alimentent la société par justement leur travail. Et c'est vraiment le but de ce qu'on veut faire, nous. C'est vrai que l'image de la pelle, de l'eau, etc., c'est sûr, c'est une image forte.
Mais elle était très claire.
Mais c'est très clair. Nabil, il a embauché 2-3 personnes. Magda, a fait vivre un environnement d'artisans, de professionnels autour d'elle. Quand tu vas voir Magda dans son cabanon qui était dentiste en Géorgie, et elle a monté son cabanon comme une vraie cuisine professionnelle. C'est ça justement aussi de donner les clés et donner ses codes à des personnes qui ont envie de s'en sortir. Et je pense que c'est notre rôle également d'aller d'emmener les codes sur l'artisanat, les producteurs, les éleveurs. Quand tu vois Nabil, ça fait un an qu'il se bat justement pour pouvoir rentrer avec ces codes-là dans la gastronomie. On le regarde plus maintenant comme un réfugié qui a pris un restaurant ou comme un simple réfugié. On le regarde comme un chef cuisinier. On vient de le faire rentrer au Collège culinaire de France, pas parce que on l'a sponsorisé ou pas parce qu'on l'a aidé. Non, simplement justement. J'étais encore plus drastique avec lui qu'avec les autres. C'est qu'il est rentré avec des vrais codes gastronomiques. Et ce mot gastronomique, je le martèle, parce qu'on n'est pas simplement à faire que de la cuisine, on est vraiment à pousser les personnes dans l'excellence de ce métier. Et ça, c'est extrêmement important. Et le challenge, je pense que pour toutes ces personnes qu'on accompagne, est encore plus difficile, parce que on table vraiment sur l'excellence, que peut-être nous, en France, des fois, on se laisse aller sur une certaine facilité. Et je pense que l'excellence, c'est ça qui fait la vraie différence. On va pas aller chercher son houmous tout fait dans une grande enseigne. On va aller chercher le producteur de pois chiches pour faire son houmous. Et là, le regard de l'autre est complètement différent.
Mais d'emblée, vous les orientez vers cette excellence.
Ah, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut pas oublier que c'est plus facile de raconter une histoire avec quelqu'un derrière, que ce soit pour n'importe quelle personne, que ce soit réfugié, pas réfugié, personne en difficulté, ou simplement élève, que d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Dans le sens où la personne, Nabil, va aller raconter son histoire. Là, il travaille avec Laure Fourca, qui est une amie à moi qui fait des fromages de chef d'exception, qui est complètement dans l'excellence. Elle m'appelle, elle me dit « qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je peux ?» Je dis « mais bien entendu, pourquoi tu ne pourrais pas ? C'est un cuisinier au même titre que moi, je suis cuisinier, et je te garantis que tes fromages seront respectés parce qu'il est dans l'excellence. »
Et c'est ça le pari réussi, parce que tout à coup, on oublie l'histoire.
Exactement.
Justement qu'il a raconté, et ce qu'il prône, ça va être le cuisinier, son talent et la manière dont il
Exactement.
Sera
et ça, c'est très
mettre
important.
En valeur. Je vais vous faire écouter quand même Nabil, parce que on a récupéré un petit peu de l'entretien qu'on avait eu avec lui l'année dernière, parce qu'il faut l'avoir un peu dans les oreilles, Nabil.
J'étais ingénieur de banque et informatique, mais la cuisine c'était ma centre d'intérêt, ma passion. Donc dès qu'on est arrivé en France, j'ai dit à Susanna, ma femme, que on a tout perdu, pourquoi pas on peut suivre mon rêve à être chef cuisinier. Et voilà, ce rêve ça commence à réaliser.
Et pourquoi la cuisine ? Qu'est-ce que la cuisine dit de votre pays ?
La cuisine, je trouve que le moment où on était arrivé, on était seul, donc et on parlait pas du tout français, moi et ma femme et mes enfants. Donc j'ai commencé à faire quelques plats et partager avec les voisins, les voisines, mon médecin. Petit à petit, j'ai trouvé que c'est un moyen de partager, communiquer, sans avoir la langue. comme la musique.
Et il est devenu un peu virtuose, je crois, Nabil Attar. Il a déjà un français totalement incroyable.
On voit vraiment l'envie de s'insérer dans la société. Je reviens sur cette fameuse bouteille d'eau. C'est pas juste de prendre cette bouteille d'eau parce que t'as soif et puis après d'étouffer tout ça avec un, on met le mouchoir quelque part sur la merde et on la laisse tranquillement infuser. Non, c'est pas ça. C'est que on remue tout ça et ben il y a des gens de talent, il y a des gens de peut-être de moins de talent, mais des gens qui ont envie de s'en sortir. Tout le monde n'est pas là en mode je veux profiter de la société. Non. Nous, personnellement, je serais dans une situation comme ça, je n'aurais pas envie de profiter, j'ai envie de donner, et surtout j'ai envie de vivre, simplement. Parce qu'on oublie, c'est qu'on vit qu'une fois quand même, sur Terre. Arrivé à un moment, c'est quand même le but du jeu, c'est d'y vivre le mieux possible.
Le mieux possible. Et avec votre exigence, justement, ça doit aider aussi, en fait, à aller viser tout de suite le meilleur, et pas se contenter de surnager, mais déjà d'emblée le meilleur, comme ça, dans la pérennité, ça permet de s'asseoir vraiment sur le long terme, j'imagine,
tout
également.
À fait, parce que de viser, c'est vrai que... Avec Aïssan, on va s'apprendre.
Aïssan va nous raconter.
Mais déjà, l'établissement où il est, la régalade avec Bruno Doucet, déjà, il côtoie l'excellence. Chaque intervenant qui peut être complice est déjà dans cette excellence. Et c'est pour ça que d'ouvrir les réseaux, d'ouvrir vraiment ces réseaux de producteurs, artisans et également professionnels, on est dans l'excellence. C'est qu'on ne se contente pas juste de survivre, on se contente simplement d'avancer. Et c'est vrai que des fois, ça peut être... on a été avec Marine et Louis, on a été à Orléans. C'est vrai que d'arriver des fois à être avec la petite baguette, dire non, tu devrais pas faire ça, ça fait mal au cœur. Mais on est obligé de quelque part le faire parce que c'est normal. C'est comme chez moi dans mon établissement, tu fais une erreur, et de suite, t'es repris. Et justement, c'est ça aussi qui est important, c'est de pas laisser aller dans des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, mais d'être là, assez fort, pour dire non, stop.
Mais pour que les fondations soient vraiment solides.
Exactement.
Et là, pour l'instant, c'est pas tenir par la main, mais vous accompagnez ce projet. Ça fait un an que vous accompagnez Nabil, que vous êtes là en cas de questionnement, tout simplement. Il y a un moment, il va s'envoler.
Mais j'espère, et tant mieux. Là, avec Nabil, on est H24 sur WhatsApp, même question, etc. On n'est pas là pour être intrusif dans leur expérience. On est là en retrait pour les accompagner. C'est des adultes, hein, c'est pas des enfants,
donc,
c'est des gens qui...
Vous comprenez comme ça d'ailleurs, Aïssam. Vous vous en êtes où dans le processus? Donc vous travaillez pour le restaurant La Régalade, c'est ça? Et ça fait combien de temps que vous êtes cuisinier? Est-ce que vous étiez cuisinier avant?
Non, pas du tout. En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine du média, comme responsable d'achat de contenu des dessins animés. Donc, c'est très
donc,
loin.
Donc, rien à voir.
Rien à voir.
Si ce n'est le rêve en commun, peut-être.
Voilà. Ici, en France, toujours, j'ai le rêve de faire mon business. Je ne savais pas c'est quoi le domaine, mais je dis vraiment, j'aime bien un jour de arrêter d'être salarié. Et deuxièmement, être toujours devant l'ordi. Donc, là, ici en France, c'est une nouvelle page, toujours on réfléchit, on dépose les grandes questions, quoi. Donc, je dis, ok, c'est quoi mon projet professionnel? J'ai réfléchi et j'ai remarqué que quand j'étais en Syrie, toujours, quand je reviens de mon travail, je regarde la télé, les émissions de...
De Mohamed El Khalidi.
De cuisine partout, donc, ouais. Et je prends des notes, en fait. Même que j'ai jamais essayé de faire un œuf.
D'accord.
Jamais. Mais je ne sais pas, ça c'est, je pense, dans le...
Dans l'inconscient.
Exactement. Et ici en France, j'ai réfléchi, oui, j'aime bien cuisiner. Et comme Nabil déjà dit, la cuisine, c'est une langue qui n'a pas besoin d'apprendre, comme la musique. On peut partager notre histoire, notre culture avec la cuisine. Et j'ai dit, ok, c'est ça. Après, j'ai cherché en formation et je trouve la formation de cuisine mode emploi
de cuisine
chef
mode d'emploi de Thierry Marx.
Et on a fait 8 semaines intensives de la cuisine et 3 semaines stage obligatoire qui était à La Régalade, Saint-Honoré. Et après, dans La Régalade, chef de C m'a dit, qu'est-ce que tu fais après? Je dis, vraiment, je trouve que j'ai besoin de travailler au moins un an pour apprendre l'expérience. Et là, j'étais embauché en CDI et j'ai fait le poste de entrée chaude au début, après entrée froide. Et chaque dimanche, je fais les cuissons de branche.
S'il vous plaît, la cuisson.
Ouais.
Ça, c'est tout un apprentissage. Comment est-ce que vous êtes arrivé à... Parce qu'il y a La Régalade et le lien avec le Refugee Food Festival. Comment est-ce que vous êtes rencontrés?
L'identification et la mise en lien avec tous les cuisiniers qui participent au festival, c'est vraiment plutôt grâce au tissu associatif, qui font un boulot assez incroyable sur le terrain. Et donc, on est en contact avec plein d'associations. En l'occurrence, c'était Causon.
Causon, exactement.
Voilà, qui échangeait avec Aïssam et qui nous a mis en contact. Déjà l'année dernière, Aïssam avait participé au festival l'année dernière. Et puis, on a continué à rester en contact. On l'a vu aussi évoluer. Et puis, quand il nous a aussi parlé de ses volontés entrepreneuriales, exactement, et que nous, on avançait effectivement avec la résidence, on lui a proposé de venir nous rejoindre à la résidence pour travailler sur son projet entrepreneurial et effectivement pouvoir accompagner, créer les conditions qu'il puisse aussi travailler sur son identité culinaire,
oui, c'est
réussir
ça,
à s'affirmer aussi dans sa cuisine.
Ouais, c'est pas évident ça quand on est un jeune cuisinier. En connaissance de cuisine, en compétence, vous êtes certainement bien meilleur que je ne serai jamais. Mais cela dit, vous avez maintenant les connaissances techniques. Et qu'est-ce que vous voulez raconter dans votre cuisine? Alors, elle vous dirait que le plat qui parle de vous.
En fait, j'ai pris toutes les recettes de ma mère. Presque 80 recettes, j'ai vraiment collecté toutes les recettes, mais je trouve que je veux bien mélanger la cuisine syrienne et la cuisine française, donc je trouve le thème bistronomie, ça c'est vraiment quelque chose...
qui se prêterait bien à votre projet.
Exactement, proche des gens, pas gastronomie et pas bistrot, et là je dis ok, mon projet sera bistronomie franco-syrienne. Soit c'est un restaurant, soit un traiteur, on verra après. Mais maintenant, la phase à partir de juillet jusqu'à décembre, ça c'est pour trouver mon identité, essayer, mélanger, prendre les techniques de la cuisine française et appliquer sur les recettes traditionnelles syriennes. Et on verra. Ou bien faire les recettes traditionnelles françaises avec des touches syriennes.
Donnez-moi juste un des plats de votre maman, alors donc qui nous ferait rêver là.
Ma mère, en fait, elle a passé 30 ans en Alep, après 30 ans à Damas, donc elle fait la cuisine, la cuisine Alep d'Alep, donc toujours c'est de Kébé.
Votre plat préféré. Fétiche.
C'est, ouais, voilà. c'est difficile, c'est pas facile à faire, mais il y a beaucoup. Et ici en France, je trouve que toujours. Avec les traiteurs syriens, libanais, toujours il y a un ou deux types de kébé, mais on a beaucoup de.
Ils sont incroyables ces Syriens, parce que c'est pas le premier à me dire ça. Et Macho Chara, qui avait participé justement au Refugee Food Festival, m'avait dit oui. Alors le Libanais, c'est bien, mais nous en Syrie, on n'a pas un goût, pas deux, on en a 100.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warafunweni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers. Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent. Les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé. J'aimerais recommencer depuis le début. Mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warafunweni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Semence d'exil d'un résidu d'étoiles finantes, si c'est pas magnifique comme texte, celui de Gaël Faye pour Petit Pays. Vous écoutez Le Goût du Monde, vous êtes sur RFI bien sûr. Nous sommes avec Marine Mandrila, le chef Stéphane Jégot, avec le futur chef, chef déjà un petit peu quand même, Aïssan Karadjei et Clémentine Bruello, qui est du Refugee Food Festival à Rennes, dans l'ouest de la France. On parlait pendant qu'on écoutait Gaël Faye, Stéphane Jégot, vous nous parliez de cette gastronomie extraordinaire qui est celle du Levant.
C'est vrai que le Liban a ses touches, la Syrie, etc. Mais quand tu regardes la carte géogastronomique, la carte d'épices, la carte de saveurs, c'est qu'il n'y a pas de frontière. Elle est lisse vraiment dans le sens où tu vois, là, c'est du partage, c'est du cœur, c'est la générosité. Et voilà, je pense que là, on ne peut pas dire que la cuisine a compris. Mais quelque part, si on comprenait un peu plus par rapport à la cuisine, eh ben, il y aurait peut-être un peu moins de conflits, parce qu'il y aurait peut-être un peu moins de... Voilà, il y aurait juste des conflits de... quelque part de mère à mère, dire voilà, c'est ma mère qui le fait mieux, non, c'est la mienne qui le fait mieux. Et je pense que c'est pour ça que cette carte gastronomique du Moyen-Orient, je pense qu'elle est vraiment extrêmement intéressante, parce que du nord au sud, t'as du sumac, du sud à l'est, t'as du caroube, etc., etc. Et après, c'est tout dépend comment tu l'interprètes, mais c'est vraiment cet échange gastronomique qui est important.
Mais ce sont les mêmes racines.
Mais complètement.
Et le beurre clarifié, ce qui est étonnant, c'est que parfois on se dit, ah oui, alors la mienne est très différente, puis le beurre clarifié, on le retrouve partout, puis on va un petit peu plus au sud, en Afrique, on va la retrouver aussi.
En Inde,
et les mezzés, quand tu regardes les mezzés, c'est quoi? C'est qu'une déclinaison simplement de partage, tu peux même l'assimiler ça au tapas, tu peux assimiler ça à l'orchestration que la Chine fait, enfin, etc. C'est ça, c'est vraiment cette envie de partager. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et le projet des Indes qui va être intéressant, c'est qu'avec Nabil, ce qu'on a fait, on a été sur la cuisine syrienne pure, avec des vrais codes purs.
C'était son
avec Mohamed, pareil, avec Magda sur une cuisine georgienne. Et là, ça va être une vraie complicité d'intégrer une cuisine française sur une cuisine syrienne. Et là, on va rester pareil dans l'excellence. Et ça va pas dénoter par rapport au produit, parce que il va emmener ses épices. Et moi, je vais lui ouvrir par rapport aux producteurs artisans. Donc, ça va pas dénoter par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Mais en même temps, là, on va aller dans quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est beau avec la cuisine, justement. C'est qu'on va avoir un échange différent, mais similaire. C'est vrai que ce regard de l'échange et du partage, c'est ça justement qui pour nous est extrêmement intéressant. Et je pense que l'enthousiasme qu'il va mettre dans ce projet, c'est comme au même titre qu'un enthousiasme qu'une personne lambda ou un Français ou autre va mettre, c'est que c'est un entrepreneur, c'est tout. Il n'est pas là assisté, et c'est pas un assisté qui arrive, c'est pas un réfugié, c'est juste un homme qui entreprend de vivre, c'est tout.
Ça c'est beau ça. Le Refugee Food Festival, c'est la 4e édition, 15 villes. Internationales.
Absolument.
Parce qu'on a
France,
New York,
Cape Town.
Cape Town couvre le bal d'ailleurs.
Exactement,
en Afrique du Sud.
Le 4 juin. Et ensuite pas mal de villes européennes. Londres, Copenhague, Bruxelles, Genève, Madrid, Bologne. Et puis en France, pas mal de villes. Rennes pour la première année, on est super heureux.
Clémentine Ruello, vous êtes donc à Rennes. Donc racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes lancée dans cette aventure et qu'est-ce qui vous a fait dire je veux participer à ça.
Alors, je suis pas toute seule à Rennes à participer. Je suis avec Anouk et Hélène, qui ont contacté le Refugee Food Festival l'année dernière, en juin 2018. Et moi, je suis arrivée juste cette année pour lancer le festival, Refugee Food Festival. Et je suis travailleur social de formation et ça fait longtemps que j'ai envie d'associer les personnes réfugiées et la cuisine. Et je me suis dit, mais en fait, le festival a tout compris. Et en fait, j'ai accompagné longtemps des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile. Et à chaque fois, en entretien, ils m'apportaient tout le temps à manger. Donc, des spécialités de leur pays. Même si, voilà, des fois, c'est difficile d'échanger, mais il y a toujours la nourriture qui était là pour partager. Et les filles, donc Anouk est cuisinière à Rennes, dans un café qui s'appelle le Café Albertine, qui va participer à l'édition 2019. Et Anouk est graphiste et en fait, elles avaient envie de monter le festival à Rennes pour montrer justement une image positive des personnes réfugiées en cuisine. Et surtout... que des chefs réfugiés puissent cuisiner avec des chefs rennais.
Oui, parce que c'est ça l'idée, on est d'accord, parce que je ne sais pas si on l'a rappelé depuis le début de l'émission, c'est un quatre mains.
Des collaborations en cuisine,
donc des chefs qui accueillent des chefs réfugiés dans leur restaurant et ils conçoivent un menu à quatre mains pour une journée?
Ça dépend. Plusieurs parfois jours. C'est un service, parfois deux services, parfois c'est sur toute la semaine. Mais le point commun, c'est que c'est vraiment des rencontres culinaires, des restaurateurs locaux qui ouvrent leur cuisine et des cuisiniers réfugiés qui sont réfugiés statutaires, donc qui sont protégés par le droit d'asile en France et puis dans les autres villes et pays, et qui voilà créent ensemble des menus spéciaux, des goûts. Alors parfois c'est des brunchs, des dîners, voilà, des cartes qui sont entièrement revisitées.
Des envies.
Exactement, mais il y a toujours vraiment cette rencontre et cette collaboration en cuisine qui est vraiment le cœur du festival.
Bah ça, c'est Stéphane Djégo qui va devoir nous raconter, parce que c'est cette rencontre, hein, ce premier quatre mains.
Bon, la première rencontre avec Mohamed Alkadi, c'est vrai que c'est notre première collaboration. Et ben quand on s'est rencontré avec Marine et Louis, c'était le fruit du hasard quelque part, comme quoi le hasard des fois fait bien les choses.
Et c'est pas du tout du hasard. Hein.
Non, mais c'est vrai que quand moi ma collaboratrice m'a proposé justement de participer à ce premier festival, et on le faisait déjà nous en interne à la Mijan par rapport à cette réinsertion, enfin tout ce qu'on a déjà évoqué, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant justement de pouvoir ouvrir la porte, aller un peu plus loin. Et on avait le même ADN, le même ça, et puis on a commencé à échanger. Avec Mohamed, bah, on s'est mis autour de la table. Moi, je parle pas arabe, je parle pas anglais. Je comprenais un mot sur deux, mais on a sorti les iPhones et puis on a commencé à parler le langage du cuisinier. Le langage du cuisinier, c'est quoi? Bah voilà, les recettes, on tape, parce qu'on n'est pas tout à fait idiots, nous non plus, les cuisiniers. Et on a parlé des goûts, de ce rapport à l'autre par rapport à ce que tu avais envie d'emmener et comment tu avais envie d'échanger. Et surtout, il n'y avait pas de Mohamed en tant que réfugié et moi en tant que chef de la Mijan. Non, c'est simplement deux personnes au même titre de chef à chef, d'ego à ego et de d'humain à humain.
Et c'était une vraie rencontre.
Ah, c'était une vraie rencontre. Ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Puis c'est surtout que c'était un vrai échange de cuisiniers. Et Mohamed me dit, ouais, nous on a du sumac et tout. Je dis, bah ça tombe bien parce que tu vois, moi aussi. Et moi, regarde, non. Tu sais, on est ouvert. C'est ça, la cuisine. Et on a commencé comme ça. Et on a créé, justement, ce menu. Et dont ce plat qu'on se remémore tout le temps, c'est cet agneau. Moi, je déteste l'agneau. Il me fait une sorte de mousse d'agneau incroyable et cru, en plus. Alors, c'est pour te dire que, quitte à mettre la barre haute, c'est toujours plus. Et là, je lui dis, ok, on va faire ça, mais on va aller encore beaucoup plus loin, et on va se le faire vraiment, c'est une vraie collaboration, on va fusionner, et j'ai fait ça avec une anguille fumée, brûlée à la japonaise, sur un glaçage un peu particulier que j'avais créé, et les deux, c'était d'une simplicité dans l'assiette, c'était avec cette mousse d'agneau et l'anguille, mais quand tu l'avais les deux en bouche, ça faisait juste un feu d'artifice. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que tu vois deux entités complètement différentes, la mer.
Sur le papier, oui.
Voilà. Et même dans l'assiette, on avait fait extrêmement important et on avait mis un trait noir au milieu, symbole de frontière quelque part, mais en bouche, symbole d'unité. Et on a tout le temps collaboré comme ça. Même à Taste of Paris, ce qu'on vient de faire, on a collaboré sur ce bar mariné avec des épices géorgiennes, complicité avec complètement la recette de Mohamed, et donc on a fusionné tout ça sur des asperges de Christophe Latour dans Lot-et-Garonne, et quand tu vois ce plat, et ben ça la représentation même du Réfugié Food Festival, de ce que Marine et Louis ont voulu apporter, et pourquoi justement on est complices depuis 4 ans, et pourquoi justement on a autant d'énergie pour accompagner ce projet, et on veut justement avoir autant d'énergie parce que...
Est-ce que ça débouche sur des trucs extraordinaires?
Ça débouche sur des rencontres extraordinaires, ça débouche surtout sur des personnes.
Mettez la barre haute là, hein, Stéphane Djégo, parce que Issam et vous, alors le 20 juin, si on prend rendez-vous, on peut aller manger, c'est ça? Un dîner à quatre mains?
Exactement.
Mais pour ça, alors vous avez commencé à...
C'est même pas la peine de demander qu'est-ce qu'il y a. On sait même pas.
Non, mais ce sera bien, de toute manière.
Ça, je peux
juste
le garantir.
Je voudrais juste préciser un tout petit peu, parce que ça ne naît pas, la participation de Rennes au Refugee Food Festival, simplement d'une envie. Il doit y avoir un cadre, quelque chose. On ne peut pas juste se réveiller en disant, tiens, je vais en organiser un petit festival dans ma ville. Mm-hmm. Comment ça marche, Marine Mandrila?
Effectivement, on est contacté chaque année par de nombreux citoyens qui ont envie d'organiser le festival dans leur ville. Et là, on mène une série de rencontres, d'entretiens pour essayer de voir si toutes les conditions sont réunies pour que le projet puisse se développer dans telle ou telle ville. Et c'est ce qui s'est passé pour Rennes, où on a été contacté par à la base Anouk et Hélène, puis Clémentine, qui avait, bon, bah, c'est une équipe géniale et toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse accompagner le projet à Rennes. Nous, on a une équipe de coordination à Paris et on accompagne les différents porteurs de projets qui sont tous bénévoles, et je tiens à le souligner. Donc, c'est un engagement qui est d'autant plus remarquable parce que c'est énormément de temps et d'engagement. Et nous, on accompagne, voilà, à Paris pour faire en sorte que l'identification des cuisiniers, des restaurants, la préparation des collaborations, la sensibilisation, donc, autour du festival pour que le plus de personnes possible viennent au restaurant et que le festival ait aussi une résonance en dehors des murs du restaurant. Et donc c'est un vrai voilà travail d'équipe par Skype grâce à plein d'outils, à des Dropbox, à des voilà. Il y a quand même un certain cadre. Mm-hmm. Et on est aussi accompagné à nouveau cette année par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui nous apporte aussi son expertise et par toute une série de partenaires qui contribuent aussi à financer le projet. Et c'est important de le rappeler parce qu'on est une association donc. On est forcément aidé par des partenaires externes, donc c'est un vrai travail collaboratif.
Donc on peut s'engager en soutenant l'association, on peut s'engager en devenant bénévole également, et c'est tout à fait possible si on a envie de créer ce festival, de vous contacter et de se lancer.
Et effectivement, au sein des villes, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont engagés, qui sont là dans les restaurants, qui accompagnent aussi les rencontres avec les cuisiniers. Donc et tout ça est décrit sur notre site internet, mais il y a plein de manières de s'engager dans le projet.
Clémentine, qu'est-ce que la Bretagne va goûter alors lors de ce festival? Vous avez combien de restaurants qui participent à l'opération et quel pays? Qu'est-ce qu'on va goûter?
Alors on a 5 chefs réfugiés, afghans, népalais et syriens. Ils vont cuisiner dans 4 restaurants et dont un restaurant gastronomique. On va cuisiner avec 2 chefs syriens au marché des Lys, hein, qui est le grand marché de Rennes le samedi matin. Et on va aussi organiser avec un restaurant, une association qui a un restaurant, un brunch le dimanche.
D'accord. Est-ce que c'était facile, quand vous êtes allé voir les chefs, de parler de ce projet? Ils ont réagi comment?
Oui, on a eu des belles rencontres, déjà avec les personnes chefs réfugiés, qu'on a rencontrées grâce à des associations qui travaillent déjà sur Rennes, et aussi par la mission locale qui accompagne des jeunes chefs réfugiés. Puis on a été après rencontrer des restaurateurs, ça s'est très bien passé, on a même des restaurateurs qui nous ont demandé de participer directement dès qu'ils ont vu les premiers articles sur Internet, et nous organisons des rencontres avant donc le jour J pour justement que les chefs réfugiés puissent exprimer leurs souhaits au niveau des recettes.
Et puis ça fait des rencontres aussi, déjà un début de réseau à Rennes avec les chefs réfugiés qui rencontrent les restaurateurs, c'est un premier réseau qui se met en place.
Oui, alors en plus on a déjà des chefs réfugiés qui ont participé à une formation cuisine spéciale qui a été organisée par le FAFI.
FAFI c'est l'organisme qui gère toutes les formations de cuisine en France.
D'accord.
C'est parapublic.
Et à Rennes, ils ont fait une expérimentation, une formation commis cuisine pour les personnes réfugiées. Donc on a des personnes qui ont participé à cette formation, qui sont en recherche d'emploi et donc qui vont participer au Réfugiés Food Festival dans l'objectif d'ouvrir leur réseau à Rennes des restaurateurs rennais.
Surtout ce qui est important, c'est que c'est des personnes qui ont cet ADN de cuisine, qui ont envie de participer au festival et qui ont envie de devenir chef.
Oui.
Ou ont envie de s'intégrer dans la société par le métier de cuisinier. C'est que il n'y a pas que des chefs, c'est des personnes qui vont certainement devenir ou pas, mais c'est les personnes qui mettent au service de leur vie la cuisine. Aysen, là, il est en formation pour être chef et il va mettre tout ce qu'il est lui,
son énergie, son ADN,
pour être chef. Et ça, c'est très important parce qu'arrivé un moment, à force d'employer ce terme, on va dévaloriser le travail qu'ils vont faire. C'est que le regard de l'autre va plus être sur l'excellence et la valorisation du parcours, c'est dire, bon, on les a pris, on les met chef et c'est terminé. Non, pas du tout. Parce que pour arriver là où est Nabil, et pour le travail que Nabil a encore à faire, ou les autres, ou Hassan, pour arriver même à la limite ce que nous, on a vécu pendant 20 ou 30 ans, c'est pas magique.
Non.
Thierry, Marx, avec sa formation, c'est extraordinaire, mais ils ne sortent pas chef. Ils sortent avec l'envie de continuer et les bases.
Et
c'est
une
ça qui est extrêmement
culinaire.
Voilà.
Qui
et le fait de passer à la résidence, c'est justement pour pouvoir se modeler et se formater pour pouvoir continuer à aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que il va venir à la mi-juin avec moi, on va se côtoyer, on va se voir. Mais c'est extrêmement important de bien comprendre.
De bien le préciser, d'autant voilà. qu'avec les programmes télévisés, on a tendance à croire que c'est très facile en Exactement. Fait de devenir chef cuisinier, alors que non, c'est vraiment.
Surtout qu'il faut pas oublier qu'ils viennent, ils arrivent avec un parcours de vie, avec un passif d'un autre métier. Ils viennent aussi avec cette lourdeur de la condition à laquelle ils sont. Il faut pas oublier tout ça, c'est que le courage qu'ils ont pour balayer tout ça, c'est aussi le courage de se casser. Pour reconstruire, on a eu avec Magda, on l'a fait, enfin avec toi, c'est de se casser complètement pour pouvoir se reconstruire. C'est pas juste un programme télé, t'arrives, t'es chef, parce que tu passes réfugié food festival. Non, non, c'est un vrai parcours de vie et c'est surtout une vraie reconstruction de vie.
Une reconversion, ouais. un apprentissage.
Et c'est une reconstruction de vie par rapport au métier.
Effectivement, on a tendance à parler de chef par abus de langage, alors qu'effectivement, on devrait parler de cuisinier. Voilà, et effectivement, l'objectif du Refugee Food Festival, c'est de faire en sorte que derrière, il y a un vrai travail sur l'insertion
professionnelle. Une professionnalisation.
Absolument, et certains des cuisiniers qui participent ont encore besoin de formation. Donc nous, notre rôle, c'est aussi derrière de pouvoir orienter vers des formations en fonction des différentes villes. On a fait, par exemple, une mesure d'impact l'année dernière pour essayer de comprendre vraiment quel était l'impact du projet.
Les retombées,
exactement,
en fait.
Exactement, quel était l'impact.
L'efficience.
Voilà, en termes d'insertion professionnelle, par exemple. Et c'est une étude qu'on a fait avec un cabinet externe qui nous a appris que 60% des cuisiniers qui participent au festival ont des débouchés professionnels derrière. Ça veut dire accès à une formation ou proposition d'embauche directement. On veut évidemment aller plus loin, donc on est en train de mettre toute l'énergie pour faire en sorte d'aller plus loin pour 2019. Mais effectivement, voilà, il y a un vrai objectif et des vrais résultats sur l'insertion. Parce que le travail, c'est aussi le premier pas d'une intégration globale. C'est vraiment extrêmement important, ne serait-ce que pour le perfectionnement de la langue, l'autonomie financière, l'accès à un réseau, l'apprentissage des codes. On travaille pas de la même manière en Éthiopie ou en Syrie ou en France ou en Angleterre. Voilà, donc c'est l'environnement professionnel permet l'apprentissage de ces codes.
D'apprendre et de faire à manger. Ok, on l'a évoqué, c'est le lien social, etc. Mais si tu n'as pas ces codes de vie, ça peut pas fonctionner. C'est pas des tableaux Excel qu'on a, c'est des personnes, c'est des gens. C'est pas des annonces comme ça, politiques, ou dire voilà, on a plein de réfugiés, il y a plein d'embauches dans la restauration, on va les mettre. Non, ça peut pas fonctionner. Déjà, tu n'imposes pas aux gens, malgré que ce sont des situations compliquées. Et nous, le rôle de Refugee Food Festival, c'est ça, c'est d'accompagner sur le métier et également une grosse partie à côté sur le social.
Et une reconstruction.
Et une reconstruction, voilà, exactement. Ça serait trop facile sinon.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Mamzine na sa tenga haliti kose mam tolamba ira tunda dapaga mamwene kapa machuga ye vakase mam kwilamba ira na tifura mamzine na sa tenga haliti kose mam tolamba ira tunda dapaga mamwene kapa machuga ye vakase mam kwilamba ira na tifura yami busuman be yami busuman be ni yami busuman be Yammi was a man, Benny. Did a pass up, man. Yap, we love my nasa thing. I did a pass up, man. Yeah, a money, but pass up, yeah, you did a pass up, man. I'm full of me that one be, did a pass up, man. Yeah, a money, but pass up, yeah. I'm full of bagger, man, so come me. I'm full of my bagger, man, so come me.
Tata Langue, Amène-la de Candy Guira sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde aux manettes en cuisine. Des cuisiniers, leurs yeux et les sens grands ouverts, nous sommes à la découverte de l'autre. Quelle chance nous avons de pouvoir nous ouvrir au monde grâce à ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs qui se reconstruisent et revivent ici en ayant un métier.
appris, exactement, n'est-ce pas, sur le long. Il y a 3 ans, c'était en juin 2016, je m'en souviens très très bien, j'étais à la Mano, c'est un restaurant dans le 9e arrondissement de Paris. C'était la première édition du Refugee Food Festival, le festival donc des cuisines réfugiées, des chefs réfugiés. On rencontrait Emma Chochara, son baba ganouche, son zatar et ses projets. Un camion, un food truck à l'époque, aujourd'hui je crois qu'il vole de ses propres ailes et qu'il est même traiteur.
Absolument, et 3 chef ans plus Emma. Tard,
on est en février 2019. Et tout à coup, là, il y a une récompense un peu particulière. C'est le World Restaurant Award qui est donc le Refugee Food Festival Event of the Year, l'événement de l'année.
Alors, on est le Refugee Food Festival, qui est un festival itinérant qui crée des collaborations entre des restaurants et des cuisiniers réfugiés. Ça va du restaurant étoilé jusqu'à la cantine de quartier. Et on vient de remporter le prix de la catégorie World Restaurant Award. Premier objectif du Refugee Food Festival, c'est de changer le regard sur les personnes réfugiées en valorisant des talents culinaires, et en montrant que c'est des personnes comme vous, comme moi, qui ont des compétences, des savoir-faire et plein de choses à apporter à leur société d'accueil. Et je pense qu'être reconnu par cette récompense en étant événement de l'année, ça permet d'incarner tous les propos qu'on porte au travers de notre festival et de contribuer à créer un contexte d'accueil plus favorable pour les personnes réfugiées partout dans le monde.
Et c'est vrai qu'étant un événement aussi international, ça donne forcément aussi une résonance en tout cas plus importante à notre projet.
Il y a des restaurants triplement étoilés qui se sont prêtés au jeu, comme Michel Troisgros à Roanne, mais il y a aussi des cantines de quartier. Donc voilà, tous les restaurants peuvent participer. C'est un événement qui est éminemment fédérateur parce qu'il s'adresse à tout le monde. Et l'idée, c'est tous ensemble de porter une mobilisation citoyenne et de changer le regard sur les personnes réfugiées.
Donc Louis, le cofondateur du festival, avec vous Marine, qu'est-ce que ça a changé, ce prix? Parce que c'est l'événement de l'année pour un restaurant qui est le Refugee Food Festival, mais c'est une vraie reconnaissance pour ce que vous avez créé.
En fait, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, c'est une reconnaissance incroyable du milieu de la gastronomie et de la cuisine internationale, parce que voilà, c'est pas que français, européen, mais c'est vraiment international. Donc une belle reconnaissance et une belle récompense pour effectivement tout le travail qu'on fait, des cuisiniers, des porteurs de projets dans toutes les villes, et vraiment de toutes les associations aussi. Je le répète et j'insiste dessus parce que c'est pas un travail qu'on fait tout seul, nous, association Food Sweet Food. Et nous, on a aussi envie de voir un message de solidarité, en tout cas, du secteur de la gastronomie envers un projet qui a une vraie dimension sociale d'accueil et de générosité. Donc on a aussi envie de voir un message plus global.
Derrière, parce que c'était quand même un grand moment de joie. Stéphane Jégo, vous qui êtes dans la restauration depuis combien de temps maintenant déjà?
L'âge de 14 ans.
Voilà, l'âge de 14 ans. Quand on entend événement de l'année, World Restaurant, ça veut dire quoi?
Moi, je trouve ça absolument génial. On s'est battu là pour être reconnu au même titre qu'un restaurant classique dans le monde de la gastronomie. J'insiste et je réinsiste sur le mot gastronomique. C'est que ce soit de Alain Ducasse à Georges Blanc ou...
D'ailleurs, il a été primé à l'occasion
aussi,
de ce même festival.
Côté,
mais au même titre des grands noms, là, on soit justement représenté d'égal à égal. Et je trouve ça extrêmement important que les gens comprennent ce message positif, ce message de réinsertion, mais surtout ce message de qualité, et ne pas avoir de différence en disant, voilà, c'est résidence, c'est un strip food de réfugiés. Non, justement, ces codes gastronomiques sont extrêmement importants. Et je pense que c'est vraiment une récompense qui est absolument incroyable et qui, c'est la cerise sur le gâteau de tous ces efforts faits et de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le parcours de chacun de reconstruction par rapport à la gastronomie, eh ben, ce prix, et c'est vraiment pour eux tous, c'est vraiment dire voilà, waouh, on est quand même nous aussi au même titre que des grands cuisiniers, au même titre que des cuisiniers à part entière. Et c'est vrai qu'à Taste of Paris cette année...
Alors, Taste of Paris, c'est un salon qui se tient chaque année à Paris où on retrouve bien sûr des grands chefs, des grands chefs cuisiniers, des maisons reconnues.
Ça va du
qui
Ritz.
Se présente, et il y avait à côté du Ritz le Refugee Food Festival. Ça, c'est... Est-ce que le Refugee Food Festival devient une marque par la même occasion?
C'est peut-être le garant d'une représentation de qualité par rapport à l'investissement. Je pense que c'est plus ça, et que là c'était Mohamed qui était à l'honneur, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de mettre à l'honneur les personnes qui sont là pour justement par rapport à ce message qu'on veut donner. Et nous, on est là pour les soutenir, ils sont là pour les mettre à l'honneur, mais c'est pas que Mohamed qui était à l'honneur, c'est le Réfugié Food Festival proprement dit, et tous les intervenants, que ce soit tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices, et également les artisans et producteurs qui nous accompagnent. Et au même titre que ce soit un Pierre Sang, un Alain Ducasse, que ce soit un Juan Alvarez, enfin là, on n'était pas là en tant que juste storm de réfugiés, on était là à part entière en tant que gastronomie. Mmh. Voilà. Et ça, moi, je pense que c'est capital pour l'avenir. Si tu veux, c'est un petit maillon qui a été posé, c'est vraiment une pierre qui a été mise, et pour moi, c'est une des pierres les plus importantes, parce que le regard de l'autre par rapport à ce qu'on fait, on n'est plus là à se justifier, on n'a pas à se justifier. Mmh. Je ne vois pas pourquoi on irait se justifier, parce que c'est marqué Réfugié Food Festival. Non, la qualité du travail fourni, c'est au même titre qu'à la Mijan ou autre restaurant. Et je pense que ce prix, voilà, à dire maintenant, ok.
Et Sam, ça vous a fait quoi, vous, quand il y a eu un prix comme ça? Est-ce que vous vous êtes dit, quelle perspective? Enfin, ça vous a conforté encore, j'imagine, dans le... Et en même temps, un peu de pression, non?
Bien sûr. Et quand j'ai visité le Taste of Paris, j'étais vraiment content de voir le stand de Refugee Food Festival à côté de Ritz, à côté de beaucoup de noms très très connus, et ça m'a donné la confiance, la motivation de vraiment. Et j'ai goûté bien sûr
les plats réalisés.
Les plats,
ouais,
c'était génial, vraiment.
Il a vérité, il a pas aimé. Il a dit, moi, mon côté syrien, il est mieux que lui.
En tout cas, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans la gastronomie mondiale, évidemment, on retrouve maintenant des tzatars, des soumacs. Vous en parlez comme si on en avait toujours parlé. Il y a 4 ans, on n'en parlait pas du tout. Ouais, maintenant, dans les épiceries, il y a une mondialisation, certes, mais une reconnaissance aussi des épices de ces pays réfugiés. Est-ce que ça change aussi la donne?
Ouais, complètement. Je pense que la circulation est beaucoup plus facile.
Mais c'est plus de pression, du coup.
Je pense que la pression pour arriver à l'excellence, elle est pour tout le monde. Honnêtement... la pression, elle est là parce que tu veux aller sur l'excellence, donc ça va pas. Mais c'est vrai que moi, les premiers sumac et tout ça que j'ai eu, c'est il y a 10 ans, parce que on est curieux, et puis il y a toujours un copain qui passe à droite à gauche, qui l'a. Et c'est vrai que c'était, enfin moi quand je l'ai découvert, ouais, il y a une bonne dizaine d'années, c'était génial parce que moi j'étais beaucoup axé sur l'Asie. On avait beaucoup plus de facilité à avoir ces produits, de trouver les
découvertes plutôt aussi. En fait, c'est au fil des émigrations.
Non, mais
aussi.
Complètement.
Parce qu'on a les galettes de riz avec les bottes.
Tu m'as enlevé, le mot. C'est exactement ça. C'est parce que c'était plus facile. C'était le cheminement de vraiment du déplacement de la population et le déplacement des épices était plus facile sur tout ce côté Asie que maintenant. Et le Moyen-Orient, on voit que maintenant, ça vient vers nous. Et qu'est-ce qui vient vers nous? La gastronomie, les épices, le savoir et aussi cette transmission orale. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a des gens qui font des trucs incroyables, comme Kamal Mouzawak, qui Talouette.
Nous l'avions reçu dans le Goût du Monde.
C'est extraordinaire de cette transmission. Il était à Cannes cette année. Mm. Je trouve que cette ouverture est vraiment incroyable de dire, voilà, regarde, Talouette à Cannes, c'est quand même, c'est fou. C'est, non mais il y a 5 ans, jamais t'aurais imaginé ça. Et même 3 ans, jamais t'aurais imaginé ça. Il est arrivé avec ses dames, il t'a fait un truc de dingue.
Donc ces dames, ce sont des femmes qui sont des Libanaises, qui travaillent dans la semaine.
C'est des femmes qui sont issues d'immigration syrienne beaucoup, parce qu'il y a quand même 1 million de Syriens et Syriennes au Liban. Donc là, c'est vraiment d'arriver de donner l'humanité à ces personnes, justement, et de remettre la transmission de leur savoir. Mmh. Et je trouve ça incroyable, au même titre que Marianne et Louis, par rapport à leur voyage, on dit, voilà, allez, mettons les personnes dans les cunes pour retransmettre tout ça. Et justement, je pense que cette ouverture, elle est vraiment majeure.
Et c'est d'une richesse, comme vous disiez au tout début de cette émission, Marine, c'est d'une richesse incroyable. On a beaucoup de chance. Et je pense qu'on en est de plus en plus conscient.
J'espère, en tout cas, on y travaille.
En tout cas, merci beaucoup, Aïssan. J'espère que je vous revois dans 6 mois. Et j'espère que j'aurai goûté votre cuisine telle qu'elle sera
avec plaisir.
Déterminée, en tout cas telle que vous l'aurez choisie. Merci beaucoup Clémentine Ruello, je vous souhaite un très bon festival aussi.
Merci.
En Bretagne. Stéphane Jégot, à bientôt.
Avec grand plaisir.
Hein, et Marine Mandrella, évidemment. Nous serons fidèles sans doute l'année prochaine.
Merci beaucoup.
Nous, on reste dans vos pas. Si vous avez évidemment envie de partager, de découvrir tout ce qui est autour du Refugee Food Festival, il y a un site internet que je vais vous donner parce que vous pouvez également aider financièrement. C'est
www.refugeefoodfestival.com. Tout
simplement.
Toutes les informations sur les dates des différentes villes, les différents rendez-vous, etc.
Les portraits des chefs, même des podcasts, j'ai vu, où on
Absolument.
Peut découvrir Magda Guéguenava, son portrait. Très en recette également.
Exactement, et Raimot, cuisinière nigériane aussi.
Avec une très très bonne recette avec de l'igname, je
Absolument.
Crois.
Hein.
Donc tout ça, c'est sur le site du Refugee Food Festival. Le goût du monde est fidèle au poste. Même table, même heure. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous, vous serez là. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé cette émission. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine.